important de parler des réalités et vous verrez que dans mon expression, elle sera encore beaucoup plus dure, mais très rapidement, donc, la conception que j'ai des mythes de la Méditerranée, parce qu'on est entouré, on ne peut pas dire un mythe, mais des mythes. Hein, c'est celui de cette identité méditerranéenne historique, bon, qui n'a été que pendant quelques siècles quand même, c'est la Mare Nostrum. Il faudrait éviter de parler actuellement de la Méditerranée comme Mare Nostrum, je pense. Hein. Et alors quand on parle de Brodel, on a parlé de Brodel, donc qui évoquait une Méditerranée unie par l'olivier, le blé, la vigne, le climat, mais ça ne forge pas une identité, sauf à évoquer une identité immobile. Alors, Balthazar Porcel et Edgar Morin évoquent un patrimoine de mémoire, ça c'est important, un héritage commun multiple, épique et tragique. On peut aussi parler d'une identité narrative, depuis l'Odyssée, Gilgamesh, la Bible, les récits de voyage. Il y a Ibn Battuta, il y a aussi, on en a parlé tout à l'heure, Ibn Khaldoun. Autre mythe, donc, c'est celui d'une civilisation méditerranéenne, concept imaginé en Europe qui se concevait d'inspiration gréco-romaine et chrétienne en ignorant l'ampleur de l'héritage judéo-arabe. Et au XIXe siècle, donc, une Méditerranée de l'imaginaire a été bâtie par les écrivains voyageurs, tels Nerval, Lamartine, Flaubert et beaucoup d'autres. Et un autre mythe s'est juxtaposé, celui d'une Méditerranée latine, que l'on retrouve dans l'œuvre de Gabriele D'Annunzio et puis aussi dans les projets conquérants mussoliniens. S'en est suivie une approche plus pacifique et conciliatrice du mythe dans les œuvres de Valéry et de Camus, et dans l'affirmation d'un humanisme méditerranéen. Voilà ce qui devrait être construit. Plus tard, là il y a eu cette évocation, s'est développé le mythe de l'Andalous, et je citerai Jacques Berck, qui rêvait aussi de l'Algérie, qui serait, disait-il, une nouvelle Andalousie. Je le cite, « J'appelle à de nouvelles Andalousies toujours recommencées, dont nous portons en nous à la fois les décombres amoncelés, et l'inlassable espérance. » Donc, en regard de ces mythes et d'un imaginaire bien français de la Méditerranée, n'y a-t-il jamais eu de la part de la rive sud un désir de Méditerranée, globalement perçu comme une projection de l'Europe sur son sud plutôt qu'un projet de partage? Parce qu'on a dit que j'étais un ancien ambassadeur en Italie, mais je suis actuellement président de la mission laïque française, et donc qui gère des établissements scolaires, et notre matrice, c'est la Méditerranée depuis plus d'un siècle. Et j'ai présidé la mission de préfiguration du musée de la Méditerranée, que beaucoup d'entre vous connaissent, le MUSEM, ce qui m'amène à circuler autour de la Méditerranée, surtout vers la rive sud. Effectivement, je regarde, étant arabisant, la presse, les médias, on parle si peu. Je me tourne vers Hassan Abouyou qui pourra en dire davantage. On parle si peu de Méditerranée. Alors, pour passer du rêve à la réalité de la Méditerranée d'aujourd'hui, je ferai les observations suivantes. La Méditerranée d'aujourd'hui, réelle, n'est-elle pas l'espace de la montée des intolérances, de l'exclusion, des peurs, des replis identitaires, des affrontements à caractère ethnique ou religieux? Les bouleversements dans le monde arabe accentuent ces perceptions négatives, en tout cas du côté de l'Europe. La Méditerranée d'aujourd'hui est plus conflictuelle qu'unie et elle n'est plus vraiment solidaire. Les tragédies de Lampedusa, on y a fait allusion tout à l'heure, qui touchent des ressortissants méditerranéens, maintenant les Syriens, révèlent cette absence de solidarité, au moins au niveau des États, ce qui n'est pas au niveau des populations, telles que je l'ai pu le voir à travers des reportages. Donc ces fractures remettent dans l'actualité l'analyse d'Huntington sur le conflit civilisationnel entre l'Occident et l'islam. Et ça ne veut pas dire pour autant que je le prends à mon compte. Et dans son livre, je vais citer Amin Malouf, qui donne une image assez sombre dans ses ouvrages et dans ses interventions de la Méditerranée. Je le cite, « Un mur s'élève en Méditerranée entre les deux univers culturels dont je me réclame. Nous sommes dans une région où les questions communautaires prennent une importance démesurée. » Il y a aussi un autre aspect qui mérite d'être davantage approfondi. Quand on a cette perception, j'étais en poste en Égypte, de cette Alexandrie cosmopolite, de cette Alep aussi, le cosmopolitisme a disparu. Bon, c'est le phénomène de l'émergence du nationalisme arabe, et on a l'impression que le cosmopolitisme se transfère davantage vers la rive nord de la Méditerranée. Marseille, que je connais bien maintenant, est une ville véritablement cosmopolite. Et là, c'est un sujet véritablement à approfondir. Alors, quelques considérations géopolitiques. Force est de constater que la construction politique méditerranéenne trouvera ses limites aussi longtemps que ne sont pas réglés les conflits. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Hassan Abouyoub, réaffirmer la centralité de la question et du conflit israélo-palestinien. Et évidemment, tout ne doit pas se ramener dans cet arc de crise qui va de l'extrême Maghreb jusqu'aux confins afghano-pakistanais sur le conflit israélo-palestinien, mais s'il y avait une perspective, ça permettrait très probablement de régler ces tensions. Alors, il y a aussi, bien entendu, la question de Chypre, la relation Algérie-Maroc autour de la question du Sahara occidental, principal obstacle au développement de l'Union du Maghreb arabe. Alors, s'ajoutent aussi maintenant les conflits intra-civilisationnels ou intra-religieux, dont la Syrie, c'est dans l'actualité immédiate, est le principal réceptacle. Peut-on ignorer ce qu'on ne voulait pas voir? Parce que très souvent, parce qu'on est, disons, un peu dans l'espoir et dans l'espérance, disons, des évolutions fortes et qui peuvent mettre en question, évidemment, le projet méditerranéen. Et quand on le voit, la situation en Syrie, on pourrait le développer, ça mériterait une conférence en soi. Par exemple, ce qu'on observe actuellement, cet affrontement sunnisme-chiisme que diplomates et experts écartaient à ce titre-là, jusque-là. Donc, je voudrais juste deux mots sur les nouvelles frontières de la Méditerranée. Vers le sud, en direction de la zone sahélo-saharienne, Mali, Niger, Mauritanie et au-delà, refuge actuellement des groupuscules tels que ACMI et des trafics de toutes sortes. Il y a toutefois, heureusement, en perspective, le développement de ces pays, ce qui permet d'évoquer dorénavant une grande région, Europe, Méditerranée, Afrique, à côté des deux grands ensembles que sont les Amériques du Nord et du Sud et le bloc asiatique. Il y a une autre aussi donnée qui est très importante, ce sont les nouvelles frontières maritimes, source possible de nouvelles tensions ou conflits en raison de la découverte récente de gisements gaziers considérables offshore. Il s'agit notamment de gisements englobant les eaux territoriales israéliennes, libanaises, égyptiennes, syriennes et chypriotes, et ce grand gisement immense, connu curieusement, et c'est une société pétrolière américaine, le Léviathan. Alors, quand on voit ce qu'est le Léviathan dans la Bible, ce monstre marin qui annonce toutes sortes de catastrophes et de cataclysmes, et donc, ce qui se passe actuellement, on voit bien que chacun des États concernés que j'ai cités a la tentation de s'approprier ou d'étendre des zones d'exclusion économique. Alors, s'ajoutent aussi des nouvelles donnes géostratégiques. C'est d'abord le dynamisme de la diplomatie turque, qualifiée souvent cette diplomatie néo-ottomane, et aussi l'émergence de nouveaux acteurs de la Méditerranée, des pays du Golfe, parce qu'ils investissent beaucoup, mais qui développent aussi une diplomatie d'influence. Et c'est le cas du Qatar, des Émirats arabes unis, bien entendu, de l'Arabie saoudite. Alors, il y a l'Iran aussi, qui est au cœur du conflit syrien, et qui peut être un acteur pour le pire actuellement, mais pour le meilleur dans l'avenir, surtout s'il y a une perspective, évidemment, de règlement du dossier nucléaire. Alors, il y a aussi la volonté des pays de la rive sud de diversifier leurs partenariats économiques au-delà de la zone européenne, plus particulièrement en direction de la Chine. Donc, dans ce contexte très mouvant, quel modèle de partenariat euro-méditerranéen? Je vais rappeler, mais très rapidement, parce que j'étais ici en Italie, je voyais régulièrement le ministre des Affaires étrangères, Massimo D'Alema, qui était donc le ministre des Affaires étrangères de Romano Prodi, deux personnalités, il n'y a pas plus méditerranéen qu'eux-mêmes, et nous parlions en particulier de l'Union pour la Méditerranée, qui a beaucoup de difficultés, parce que c'est un projet qui est mal né. Parce qu'il faut se souvenir que le projet de Nicolas Sarkozy, c'était uniquement, comme je le disais, c'était mon expression, ceux qui devaient faire partie de l'UPM, les pays qui avaient les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau en excluant un grand partenaire de la Méditerranée, qui est l'Allemagne, qu'on voit comme un partenaire uniquement économique et commercial, mais non, qui est bien entendu concerné par aussi considérations sécuritaires, géostratégiques, d'immigration, bien entendu. Donc, dans un second temps, bien entendu, l'Allemagne a été, ainsi que les autres pays européens, l'Allemagne, c'était important parce qu'elle avait la capacité, la faculté d'entraîner les pays du nord de l'Europe. Donc, voilà, elle a été finalement élargie. Puis aussi, on avait exclu dans un premier temps la Commission européenne. Heureusement qu'elle fait partie du projet, parce que les financements sont là. Donc, pour dire la grande erreur de la construction méditerranéenne de Barcelone à l'UPM est de croire que l'on peut construire la Méditerranée comme on a construit l'Europe, par l'économie, le libre-échange, le marché, les grands projets d'infrastructure. Donc, la politique est toujours présente. Donc, on évoque maintenant la refondation de l'Union pour la Méditerranée. Mais je ne la sens pas très bien. Déjà à l'époque, avant même le changement en France, le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, appelait à la refondation. Dans le discours politique, on appelle à la refondation. Mais pour l'instant, on ne voit pas, disons, les choses venir. Et donc, pour moi, l'accent doit être dorénavant, être mis non plus sur les grands projets solaires, maritimes et autres, mais sur des programmes qui sont en liaison avec l'émergence de ces sociétés civiles dans le monde arabe qui sont à l'origine des révolutions, même s'ils ont été en partie confisqués. Donc c'est donc des programmes en faveur de la démocratisation sur la rive sud au profit de la jeunesse notamment la formation professionnelle, la recherche, la mobilité des jeunes, c'est important. On voit une Europe qui se ferme et la mobilité des jeunes et des étudiants et des c'est véritablement pour le sud un véritable problème. Il y a aussi la coopération entre territoires. Il faudrait aussi donc changer d'approche sur l'immigration pour inventer une démarche positive pour les pays européens confrontés aux flux d'immigrés relevant de plus en plus des pays de la rive sud. Donc il ne s'agit pas d'un substitut, mais je crois beaucoup à un autre exercice que j'appelle le dialogue euro-méditerranéen de proximité qui nous concerne, la France qui concerne l'Italie, c'est ce qu'on appelle la Méditerranée occidentale, le 5+5, qui est beaucoup moins freiné dans son développement parce qu'il est en dehors du conflit israélo-palestinien, même s'il y a des difficultés, là bien entendu, et je me souviens ce que me disaient mes interlocuteurs tunisiens lorsque j'étais en Tunisie, eh bien, il faut favoriser le 5+5, ça va nous aider, nous, les pays du sud de l'Union du Maghreb arabe, à construire cette union qui est nécessaire alors qu'on peut considérer qu'elle a des difficultés. Et je vous renvoie à l'excellent texte, c'est toujours d'actualité, du Cercle des économistes, sous la direction de Lorenzi, quand il évoquait ce qu'on appelle le coût d'Union Maghreb. Par le fait qu'il n'y ait pas l'Union du Maghreb arabe, c'est un coût de croissance de 1 à 2%. Voici aussi donc un élément important. Et voilà donc pour le problème aussi que l'on voit concernant les pays, surtout du côté du Maghreb, donc alors même qu'il y a cet encouragement interne, parce qu'on sent bien qu'il y a une conscience maghrébine qu'il faudrait peut-être réveiller, elle a existé au temps d'Ibn Khaldoun, elle existe encore, mais les États ne veulent avoir pratiquement que des relations bilatérales avec donc le Nord, et plus particulièrement en raison de ce passé partagé avec la France. Donc là, il y a une difficulté de construire des ensembles régionaux qui sont tout à fait nécessaires. Et là, Français et Italiens pourraient, surtout avec la nouvelle équipe gouvernementale, y travailler. Alors, je vais terminer, vous dire que, bon, mon intervention peut paraître pessimiste à l'excès, mais je veux exprimer un point de vue lucide, s'appuyant sur la réalité d'une Méditerranée réceptacle et caisse de résonance des conflits interétatiques et intra-étatiques. Comme le disait notre ami Jean-Michel Severino, qui est l'ancien directeur général de l'Agence française pour le développement, un concentré des fractures planétaires aux portes de l'Europe. Voilà, c'est la vision qu'il avait de la Méditerranée. Alors, la Méditerranée a façonné le monde, mais la mondialisation vient façonner la Méditerranée. La Méditerranée, on disait souvent, c'est la mer monde, mais maintenant, n'est-elle pas en marge du monde? Alors, en revenant à l'intitulé de notre table ronde, je terminerai par une citation un peu ancienne d'Édouard Herriot. « Une utopie est une réalité en puissance. » En écho à cette sentence, voilà, je vous invite à visiter le nouveau musée de la Méditerranée à Marseille, le MUSEM, qui présente une exposition, un rêve méditerranéen, le noir et le bleu. Le noir, le côté pessimiste de Goya, et le bleu de Miro, pour ceux qui le connaissent, qui vous accueillent dans cette exposition. Voilà, et qui traite de l'ambivalence et à la fois de l'utopie et de la réalité de la Méditerranée. Je vous renvoie à un livre qui vient de se sortir, qu'a publié le MUSEM, s'appelle « Les porteurs de rêves », et puis qui complète l'ouvrage dont on a parlé, je crois, ici, sur l'histoire de la Méditerranée, qui est, là, je crois qu'il y a ici plusieurs personnes qui y ont participé, et qui vient d'être édité aux éditions Bayard. Je vous remercie.